bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous abordons maintenant la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que nous avons la chance, la grande chance d'avoir Laurent au standard pour prendre vos messages et vos questions. N'hésitez surtout pas à le solliciter au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique courtoisie@rc.fr. Nous serons heureux de proposer vos questions, vos remarques à notre invité. L'un des événements éditoriaux de cette année 2025, mais aussi 2026, c'est la publication de cette nouvelle histoire de France, cette somme, dirigée par Éric Anceau, et qui le publie aux éditions Passé Composé. Il s'agit d'un ouvrage unique de 1000 pages, une centaine de chapitres, avec pour chaque chapitre des focus en quelque sorte, des développements sur des thèmes particuliers qui viennent compléter justement les chapitres en question. Il y a quatre parties principales dans cette nouvelle histoire de France. D'abord la chronologie de l'histoire, et une partie consacrée aux politiques et aux spiritualités, une partie espace et société, et enfin une quatrième partie patrimoine et identité. Pour chaque partie principale, nous avons eu la chance et le plaisir de recevoir régulièrement depuis la publication de cette nouvelle histoire de France, et ça c'est grâce à Éric Anceau, et nous l'en remercions particulièrement. Eh bien, nous avons reçu un choix d'auteur et qui nous permet ainsi d'aborder des thèmes qui sont très variés, et souvent c'est abordé d'une manière justement qui est originale. Le succès de ce puissant travail collectif est indéniable, et je laisserai plutôt Éric Anceau l'évoquer plutôt que moi-même d'annoncer des chiffres, ça lui appartient. Et nous avons ce soir justement le plaisir de le recevoir, à la suite d'ailleurs d'une émission précédente où il nous avait présenté ce travail. Et ce soir, nous le recevons sur un des chapitres qu'il a particulièrement décrit. Nous l'avions aussi reçu pour l'émission consacrée à une période très méconnue de notre histoire, qui est la Deuxième République, et la suite logique de ce chapitre, et ça correspond d'ailleurs à sa spécialité, nous allons le voir, et c'est le chapitre qu'il consacre en effet au Deuxième Empire et à Napoléon III. Ça sera d'ailleurs le thème principal de notre émission. Alors évidemment, 1h30, c'est court pour traiter du Deuxième Empire et évoquer Napoléon III. Et aussi, nous nous concentrerons, avec son aide naturellement, sur quelques points caractéristiques importants de cette période de l'histoire. Nous parlerons plus particulièrement de la prise du pouvoir par Napoléon III. Enfin, il n'est pas encore Napoléon III, c'est le prince président, mais il va le devenir, Napoléon III. Nous parlons de la prise du pouvoir, et puis nous parlons de la première partie de son règne, qui est d'abord un empire autoritaire, et sous la pression des événements, naturellement, qui va devenir un empire libéral, et puis jusqu'à l'effondrement. Hein, l'effondrement suite, naturellement, à la guerre contre la Prusse. C'est un vaste programme, nous en traiterons le maximum. Et j'ai le plaisir, donc, chers auditeurs, de recevoir Éric Anceau pour donc aborder cette histoire particulière du Deuxième Empire. Éric Anceau, bonsoir.
Bonsoir Thierry, merci pour cette nouvelle invitation. J'ai quasiment mon rond de serviette dans votre émission et je m'en félicite grâce à votre amitié.
Mais c'est avec grand plaisir. Je vous présente avant que vous évoquiez quand même le succès réel hein, de votre ouvrage collectif, cette somme, hein, Nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé. Je rappelle aux auditeurs, mais ils vous connaissent bien, c'est vrai, hein, que vous êtes naturellement historien, vous êtes un spécialiste reconnu du Second Empire, naturellement de Napoléon III, mais aussi d'autres thèmes comme celui de la laïcité. Vous êtes professeur des universités en histoire politique et sociale de la France et de l'Europe contemporaine à l'Université de Lorraine. Vous avez reçu de nombreux prix pour vos travaux, notamment celui de la Fondation Napoléon, pour tous vos travaux sur le Second Empire, et celui du prix Guizot de l'Académie française. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, principalement sur cette période, mais pas que. Nous l'avons dit. Je citerai par exemple Napoléon III, un Saint-Simon à cheval que vous avez publié chez Talendier. Vous avez publié L'Empire libéral chez SPM. On est plein dans notre sujet ce soir. Vous avez donc publié cette nouvelle histoire de France, hein, aux éditions Paix Composé. Oui, et j'ajouterai aussi, pour bien illustrer cette période, notamment celle qui succède à l'Empire, Gambetta, que vous avez publié récemment au PUF. Souhaitez-vous compléter, Eric?
Oui. Alors, mon actualité est double en ce mois de septembre, parce que je ne chôme pas et je travaille, y compris pendant mes vacances. Et il se trouve que nous rééditons chez l'un de mes éditeurs fétiches, Talendier, mon histoire de la nation française qui était sortie il y a un an et demi en poche dans la collection texto hein, de cet éditeur Talendier. Voilà, donc vous aurez réactualisé oui. Parce que en un an et demi, un certain nombre de choses se sont produites et la bibliographie s'est étendue. Cette histoire de la nation française. Et puis, nous en parlerons peut-être. Il y a une figure, vous évoquiez tout à l'heure l'Empire libéral, de cet Empire libéral aux côtés de Napoléon III, qui s'appelle Émile Ollivier.
Oui.
Et nous avions organisé en juillet 2025 le colloque du bicentenaire d'Émile Ollivier. Il était né en juillet 1825 à Saint-Tropez, puisqu'il a passé toute la dernière partie de sa vie à Saint-Tropez, avant que Saint-Tropez ne soit connu par Brigitte Bardot. Et donc, nous éditons ce mois-ci les actes de ce colloque.
Consacré donc à ce ministre, qui a été ministre un temps assez court.
Oui, bah, par la force des choses, hein, puisqu'en fait, il est emporté comme l'Empire lui-même par la guerre de 1870, la malheureuse guerre de 1870. Mmh. Et il va porter un petit peu comme une croix une phrase qu'il a bien prononcée, mais qui est complètement retirée de son contexte, dans laquelle il disait, pour obtenir les crédits de guerre, de la guerre contre la Prusse, « Nous acceptons cette guerre d'un cœur léger ». Alors, comme bien évidemment la guerre va être perdue et va occasionner beaucoup de morts, on va le lui reprocher, mais c'est retirer cette phrase de son contexte parce qu'il disait d'un cœur léger, parce que nous avons le droit pour nous, nous sommes agressés par la Prusse de Bismarck. Donc il faut resituer ça dans le contexte.
Dans le contexte. Et pourtant, il était opposé à la guerre, non, écrivez-vous, je crois.
Et en plus, il était pacifiste, oui. Il était effectivement opposé à la guerre, donc c'est l'un des paradoxes. Mmh. Il avait demandé une réduction du contingent militaire pour montrer que la France était de bonne foi face à une Prusse qui s'était armée et qui était agressive. Alors par contre, est-ce que c'était raisonnable? Ça, c'est autre chose. Mais on ne peut pas lui retirer qu'il était animé, je dirais, de bonnes intentions.
Alors je vous propose, Éric Anceau, de commencer par le début, puisque de nous rappeler les circonstances qui amènent, en effet, le prince Napoléon, Louis-Napoléon, à faire ce coup d'État. Qu'est-ce qui l'amène à faire? Il est président de la République, président de la Deuxième République, et puis il va lancer, avant la fin de son mandat d'ailleurs, hein, parce que son mandat, je crois, finit en 1852.
Exactement.
Il va lancer ce coup d'État, il ne choisit certainement pas la date au hasard, de décembre 1851. Qu'est-ce qui l'amène?
C'est une affaire peu banale, effectivement. Alors je relate, hein, tout à l'heure, vous évoquiez ce livre,
oui.
qui est ressorti lui-même en poche il y a une dizaine d'années, que j'avais publié il y a 20 ans maintenant, ma biographie de Napoléon III, Napoléon III, un Saint-Simon à cheval.
Donc c'est texto, un texto Talendier là. Hein.
Texto aussi Talendier, oui. Ça c'est un autre ouvrage qui est apparu chez Talendier. L'homme en fait est le neveu, il faut le rappeler, de l'empereur Napoléon Ier, qui lui-même avait fait un coup d'État, mais un coup d'État différent, parce que Napoléon Bonaparte avait fait son coup d'État pour arriver au pouvoir. Le coup d'État des 18 et 19 Brumaire en 9 et 10 novembre 1799. À l'époque, vous aviez un régime au pouvoir qui s'appelait le Directoire et qui, en son sein même, avait des adversaires qu'il trouvait trop faibles. Ils ont fait appel, comme on le disait sous la Révolution, à un sabre. Et ce sabre très brillant était le général Bonaparte, victorieux en Italie et victorieux en Égypte, pour mettre un terme à ce Directoire et bâtir un régime plus solide qui allait devenir le Consulat. Simplement, Ce dont ne se doutaient pas ces révolutionnaires dans la BCIS, c'est qu'après, ils sauteraient le pas et du consulat, ils passeraient à l'Empire. Alors, on est avec son neveu dans une configuration différente parce que figurez-vous qu'en 1848, en grande partie grâce à la légende napoléonienne, la légende de son oncle Napoléon, du Premier Empire, il s'est fait élire président de la République. Et pour tout dire, il est même le premier président de la République de l'histoire française
Élu au
élu au
suffrage.
suffrage universel masculin le 10
Précisons,
et 11 décembre
oui.
1848.
Précisons, et Curceau, pardon de vous interrompre, il est
Oui.
élu président de la République au suffrage universel après deux tentatives de coup d'État. C'est quand même, ce n'est pas banal.
Oui, tout à fait. Alors, il croit dans son étoile, il a l'inspiration de son oncle Napoléon Bonaparte, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État, et il va chercher à renverser le roi Louis-Philippe, qui est très impopulaire. À deux reprises, par deux tentatives de coup d'État qui vont, il faut le dire, je suis universitaire, donc même si vous le verrez, j'aime bien Louis-Napoléon Bonaparte, que j'estime être un homme d'État. Et d'ailleurs, je vais publier l'an prochain une galerie d'hommes d'État. Je vais appeler ça Qu'est-ce qu'un homme d'État pour peut-être donner des idées à nos hommes politiques qui se préparent aujourd'hui à l'élection présidentielle. Et j'ai retenu, bien évidemment, Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, c'est vous, il n'y a que 50 personnalités que j'ai retenues de 1787 au temps présent. Et je l'ai mis dedans. Donc, c'est vous dire si il est pour moi source d'admiration. Mais il a échoué lamentablement avec ses deux tentatives de coup d'État, en 1836 d'abord à Strasbourg. Et en 1840 à Boulogne, ensuite Boulogne-sur-Mer, ce qui lui a valu une incarcération à perpétuité dans une forteresse du royaume, dont il s'est évadé dans des conditions rocambolesques en 1846, avant, imaginez le destin de cet homme, 2 ans plus tard, d'être élu président de la République. Imagine-t-on Marine Le Pen ou Édouard Philippe purger une peine de réclusion à perpétuité, s'évader de prison et se faire élire président ou présidente de la République.
Comment bâtit-il ce coup d'État? Le deuxième, le
Alors,
troisième, pardon.
pourquoi
Et
d'abord
il a,
ce coup
il a,
d'État?
voilà. Et c'est, revenons donc au
Oui.
troisième coup d'État, puisque c'est
Oui.
le troisième qu'il va en effet mettre en œuvre pour. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi il est amené au matin du 2 décembre 1851 à prendre le pouvoir.
Ben déjà, c'est peu banal. On disait, son oncle prend le pouvoir par un coup d'État. Lui, il est au pouvoir.
Oui.
Mais vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 1852, son mandat présidentiel, qui est à l'époque un mandat de 4 ans, la Constitution française de 1848 de la Deuxième République est très inspirée de celle des États-Unis d'Amérique. Et donc, il y a un mandat de 4 ans avec un vice-président. Imaginez, c'est la seule fois de l'histoire française où dans notre régime, nous avions un président de la République et un vice-président. Hein, on n'a pas renouvelé ça, ni dans la troisième, ni dans la quatrième, ni bien évidemment avec le général de Gaulle, il n'aurait pas aimé dans la cinquième République. Mais alors, il y a une différence avec les États-Unis d'Amérique, c'est qu'à l'époque, aux États-Unis d'Amérique, un président peut se faire réélire indéfiniment président. Vous le savez sans doute, Franklin Delano Roosevelt, élu une première fois en novembre 1932, se fera élire 4 fois président des États-Unis, mourant d'un cancer, au milieu de son 4e mandat. Et c'est à la suite de sa mort que les Américains décideront de limiter le nombre des mandats présidentiels à 2. En France, dans la Constitution de 1848, il n'y a qu'un mandat. Et les constituants, qui sont des républicains sourcilleux et très craintifs, ont pris des garanties dans la Constitution pour éviter des révisions constitutionnelles qui permettraient à un homme de briguer un nouveau mandat. Donc il est très très dur, voire impossible, de réviser cette Constitution de 1848. Il y a donc un blocage institutionnel. Et c'est ce blocage institutionnel, parce qu'il se sait l'homme le plus populaire de France. Et ça, c'est avéré. À l'époque, il n'y avait pas de sondage, mais il organisait des pétitions et il y avait des retours, des rapports d'administration qui montraient son immense popularité, qu'il décide, pour sortir de, je dirais, ce blocage institutionnel, de faire un coup d'État. Et imaginez, je
Alors,
vous ai donné la date, je termine avec ça,
oui.
imaginez qu'il le fait, c'est très osé, un 2 décembre. Je rappelle que le 2 décembre 1804, son oncle a été sacré empereur des Français, et qu'un an plus tard, le 2 décembre 1805, il a remporté sa plus belle victoire, Austerlitz.
Austerlitz.
C'est donc extrêmement osé de faire son coup d'État
Le
un
2
2 décembre.
décembre. Mais Éric Orsot, néanmoins, vous précisez dans ce chapitre consacré au Deuxième Empire de la Nouvelle Histoire de France aux éditions Passy à Composer, vous précisez tout de même qu'en juillet 1851, il y a quand même une forte majorité en faveur de la révision, mais que cette forte majorité est insuffisante car justement la Constitution exige une majorité des deux tiers. La
Des trois
question.
quarts, même. Des trois
Des trois
quarts.
quarts même,
Ah
bien.
oui. Et donc,
Donc ça
si
rend
vous
les choses très
voulez.
difficiles. Mais
Ah ben, oui.
ma question, c'est de l'Uchronie. Est-ce que Louis-Napoléon Bonaparte, le président, le prince président, à cette époque avait déjà en tête de devenir empereur ou alors simplement il voulait poursuivre son mandat de président? Imaginons que la Constitution l'eût autorisé à se représenter, il aurait été élu. Que se serait-il passé d'après vous?
Ah, alors là, c'est une question complexe et les historiens, et moi le premier, n'aiment pas faire de l'histoire fiction. Donc je
Bien
serais bien
sûr.
en peine de vous le dire.
Mais ses
On peut s'appuyer
intentions,
sur ses écrits et ses
oui.
paroles, si vous voulez, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce coup d'État, il va le porter, il utilisait lui-même cette expression comme une tunique de Nessus, c'est-à-dire quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser et qui vous pèse d'un poids très très lourd. Et donc, s'il avait pu se passer de ce coup d'État, il l'aurait évité à ce moment-là, en tout cas. Et donc, il était destiné à jouer le jeu. Il faut savoir que plusieurs généraux de son entourage lui ont proposé, au cours des années précédentes, un coup d'État, mais il avait dit non, je veux une révision constitutionnelle. C'est simplement quand il a vu, à l'été 1851, que cette révision constitutionnelle était impossible, qu'il a décidé, avec quelques-uns de ses conseillers, dont son demi-frère, le comte de Morny, de franchir le pas et d'aller vers le coup d'État. Il avait échoué deux fois et il avait dit plus jamais ça. Et en plus, ne l'oubliez pas, dans la Constitution de 1848, deux articles poursuivent pour forfaiture un président qui contreviendrait à son serment de protéger les institutions. Parce que bien évidemment, les constituants de 48, hein, on a une histoire très tumultueuse en France à l'époque, se méfiaient du chef de l'État qu'ils allaient placer à leur tête. Dans notre Constitution de 1958, il n'y a pas, si vous voulez, d'article similaire qui menace de la Haute Cour de justice un président de la République, Emmanuel Macron, par exemple, qui, voulant rester en 2027 au pouvoir, activerait l'article 16 de la Constitution pour y rester. Il n'y a pas de garde-fou à ça dans notre Constitution. Il y en avait dans la Constitution de 48. Donc il savait tout ça. Et il a vraiment fallu arriver aux dernières extrémités pour qu'il se lance dans ce coup d'État, qui aurait pu
Oui.
d'ailleurs échouer. Et alors là, s'il échouait, c'était la peine de mort.
Éric, en soi, on va parler du coup d'État qui l'a monté. Et comment il l'a monté, ce qui s'est passé exactement. C'est quoi cet article 16 que vous évoquez de notre
Ah ben, c'est l'article
Constitution?
16 de la Constitution de 58, c'est les pleins pouvoirs que le général de Gaulle a utilisés dans la guerre d'Algérie. Et alors, je fais de la politique fiction, là on est dans une émission d'histoire, mais il y a un petit bruit qui court là, je n'y crois pas à vrai dire, hein, mais
Oui.
bon, autant l'évoquer, comme quoi, ben voilà, avec les turbulences internationales que nous connaissons, hein, on a déjà vu que la campagne présidentielle de 2022 avait été un peu occultée par la guerre en Ukraine, le déclenchement de la guerre en Ukraine, et là, qui sait en 2027 ce qui va nous sortir? Imaginez, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Est-ce que ce n'est pas une mesure de salut public de ne pas faire l'élection présidentielle? Oh là là, ça nous entraîne très loin.
Nous allons
Non, mais
revenir.
je reviens à notre propos.
Nous allons revenir.
Pour vous dire qu'il n'y a pas de garde-fou dans la Constitution de 58, il
Oui.
y en avait dans la Constitution de 48, et ça n'a pas empêché Louis-Napoléon Bonaparte de faire son coup d'État, malgré les risques qu'il encourait, comme je l'expliquais, la peine de mort.
Avec qui monte-t-il ce coup d'État? Comment le monte-t-il et que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a des révoltes, des barricades,
Oui.
des tués? Comment ça se passe à Paris et comment ça se passe en province? Comment fait-il?
Alors, il y a très peu de personnes qui sont dans le secret de ce qu'il a appelé l'opération Rubicon. Alors, pourquoi est-ce qu'il l'a appelé l'opération Rubicon? Parce que il est un très, très grand admirateur de Jules César, dont il écrira après, imaginez, pendant son règne, imaginez un président de la République aujourd'hui qui consacrerait une partie de ses journées à écrire une biographie en trois volumes d'un personnage historique, il a écrit une biographie de Jules César. Donc, profonde admiration pour Jules César, qu'il considère comme un homme d'État, l'un de ses précurseurs, avec son oncle Napoléon, avec Charlemagne, qu'il admirait également beaucoup. Et donc, cette opération, franchir le Rubicon, eh ben, c'est entrer provisoirement dans l'illégalité au nom d'une forme de légitimité pour se maintenir au pouvoir. C'est ça, l'opération Rubicon. Et donc, dans cette opération Rubicon, il y a très peu de personnes qui sont dans la confidence. Vous avez deux généraux, dont celui qu'il va nommer au moment de son coup d'État, le ministre de la Guerre, qui s'appelle le général de Saint-Arnaud. Vous avez son demi-frère, dont je parlais tout à l'heure, le comte de Morny, qui est un peu l'homme clé de ce coup d'État, puisque c'est lui que Louis-Napoléon Bonaparte va placer au ministère clé de l'Intérieur. Et vous avez le préfet de la Haute-Garonne qui est nommé préfet de la Seine. Le poste de préfet de la Seine est un préfet de police, excusez-moi, pour préfet de la Seine, est un poste stratégique. Et il s'agit de Maupas, dont mon doctorant, Franz Laurent, lui a consacré une thèse qui est très très brillante et qui est devenue un livre sur l'homme du coup d'État, Maupas, qui joue un rôle aussi très important dans ce coup d'État. Alors, il va y avoir des résistances. Il va y avoir des résistances tout d'abord des députés. Les députés vont se réunir pour mettre, en vertu des articles de la Constitution que je vous évoquais tout à l'heure, le président hors la loi. Et ces députés vont être coffrés. Hein, on va les enfermer. Donc, le coup d'État est caractérisé.
Pardonnez-moi, pour le
Oui?
déroulement de ce coup d'État,
Oui?
ces députés découvrent le coup d'État par voie de, le matin, par du 2 décembre, par voie d'affichage, en quelque sorte. Hein, et ils
Alors, il y a
se.
deux types de députés, si vous voulez, de représentants du peuple. Il y a ceux qui le découvrent parce que quelqu'un se rend à leur domicile, un commissaire de police,
Oui.
pour les arrêter. Eux, ils sont
Ah.
jugés très, très dangereux. C'est les généraux, parce qu'à l'époque, vous aviez beaucoup de généraux qui étaient représentants du peuple, et on pense qu'ils pourraient créer une résistance, hein, des généraux républicains. Et il y a ceux qu'on appelle les questeurs de l'Assemblée, comme aujourd'hui, les questeurs s'occupent de l'administration de l'Assemblée, et à l'époque, peuvent requérir de la force publique pour protéger cette Assemblée. Donc, eux sont arrêtés à leur domicile,
Dès le
et puis il y a
matin,
ceux
il y a une
qu'on
liste.
n'arrête pas,
Oui.
pardon?
Dès le matin, il y a une liste qui avait été bâtie, des personnes à arrêter au
Oui,
petit matin.
même dans les jours qui précèdent, hein, parce que tout ça se fait dans la nuit du 1er au 2 décembre. Et vous avez tous les autres députés. Alors, la plupart, on est en session parlementaire. Et l'un des débats était de savoir si on allait faire le coup d'État au moment de la session parlementaire ou au moment où les députés étaient en vacances. Et il y avait des partisans dans le petit complot pour faire le coup d'État au moment de la vacance parlementaire. Et Louis-Napoléon Bonaparte, c'est lui qui a emporté le morceau. Il a dit surtout pas. Parce que les députés, ils seront dans leur département. Et dans leur département, ils soulèveront les populations. Il vaut mieux les avoir à Paris pour pouvoir les incarcérer. Alors simplement, on les incarcère pas tous et certains vont se réunir et vont décider de mettre le président hors la loi. Eux sont arrêtés. Et puis, quelques députés ne sont pas arrêtés dans cette fameuse réunion dont je vous parlais. Et ce sont des députés républicains. Ils vont participer en fait au soulèvement des Parisiens sur les barricades, car vous allez avoir une résistance à Paris sur des barricades. Et puis vous allez également avoir une résistance dans un certain nombre de villes et de villages de province, en particulier dans le Midi.
Il y a donc des combats.
Il y a des combats de rue à Paris. Alors, c'est un coup d'État extrêmement violent. Ce n'est pas le coup d'État du 18-19 Brumaire de Napoléon Bonaparte, qu'on pourrait qualifier presque de révolution de velours, hein, parce que on a effrayé les députés, ça s'est fait à Saint-Cloud, et le peuple est resté tranquillement, il n'aimait pas les députés d'ailleurs à l'époque, hein, tranquillement chez lui. Là, il y a quand même une partie du peuple de Paris qui se soulève, il y a des manifestations sur les boulevards. Et Morny fait couler le sang parce qu'il estime qu'en faisant couler le sang, il va effrayer tout le monde. Et il y a des estimations des morts dans les rues de Paris les 3 et 4 décembre qui sont très très élevées, hein, puisque l'estimation basse, celle des autorités, c'est 300 morts. Imaginez, les autorités reconnaissent 300 morts à Paris. Et des estimations hautes, par exemple, le Times, un journal anglais, parlera de 1 500 morts dans les rues de Paris. Donc un coup d'État, vous voulez, très sanglant. Et il y a des soulèvements en province également. Je renvoie à Zola, dans son cycle des Rougon-Macquart, il consacre un roman entier au coup d'État et à la manière dont il a été réprimé dans son cher Midi natal.
Les troubles durent combien de temps?
Les troubles durent 3 semaines. Dans les endroits vraiment où la résistance est forte, c'est la montagne de Lure, dans le département actuel des Alpes-de-Haute-Provence. À l'époque, on appelait ce département la Basse-Provence, qui est le dernier lieu, si vous voulez, de résistance, hein, où les républicains vont se faire massacrer ou arrêter, en fait. Hein, on peut dire un mot de la répression. Beaucoup seront condamnés à des peines de prison. Beaucoup seront déportés en Guyane ou bien en Algérie, qui à l'époque était département français, et quelques autres seront relaxés, ceux qui étaient les jugés les moins coupables.
Louis-Napoléon Bonaparte aura toujours la situation en main, ou à un moment il a cru qu'il n'y arriverait pas.
Alors lui, il faut le savoir, c'est l'un des traits de sa personnalité. Un sang-froid absolument extraordinaire. Il faut savoir qu'il sera victime d'une quinzaine d'attentats, dont deux manqueront vraiment de très très peu d'échouer. Hein. Et même dans ces attentats, au péril de sa vie, il restera d'un sang-froid inébranlable. Et les témoignages que nous avons, en particulier de son oncle, de son cousin Germain, de deux de ses généraux, relatent son immense sang-froid. Il apparaîtra dans les rues de Paris à cheval au moment des barricades. C'est un homme extrêmement courageux. On pense encore une fois ce qu'on veut de son coup d'État. Hein. Bien évidemment, je ne défends pas son coup d'État, mais on ne peut pas lui nier une part de courage. En revanche, un certain nombre de ceux qui l'entourent, pardonnez-moi le terme un petit peu vulgaire, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire, perdront les pédales. Hein. C'est le cas de Maupas. Maupas, préfet de police, pourtant, eh bien, à un moment donné, sera pris, alors ça durera peu, mais d'une panique devant les résistances, et en particulier quand Morny fera tirer sur la foule, le ministre de l'Intérieur, il est théoriquement sous les ordres de Morny, et il va y avoir, on le sait aujourd'hui, hein, pas une rixe, mais je dirais une querelle entre les deux hommes, parce que Maupas ne voulait pas que le sang coule, il craignait que de ce dérapage sorte une révolution, en fait. Et finalement, bah, les faits ont donné raison à Morny, puisque le fait d'avoir tué comme ça 300 badauds sur les boulevards a plutôt effrayé qu'il n'a précipité les gens dans la rue. J'ajouterai un élément, une partie du peuple de Paris est sur les barricades, mais une grande partie des ouvriers était du côté de Louis-Napoléon Bonaparte et détestait les députés, parce que on parlait tout à l'heure de l'élection présidentielle au suffrage universel masculin, mais la majorité de l'Assemblée, qui avait refusé de voter la révision constitutionnelle, ne voulait pas du suffrage universel masculin. Et c'est ce qu'on appelle la loi Thiers du 31 mai 1850, avait amputé le suffrage universel masculin du tiers de la population la plus pauvre, la plus déshéritée, celle qui n'avait pas d'habitat fixe. Et donc tout cela était plutôt heureux de voir les députés mis sur la touche. Et dans sa proclamation du 2 décembre, le président de la République rétablir le suffrage universel masculin dans son intégralité. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
C'est l'armée qui permet au coup d'État de Louis-Napoléon de triompher, parce qu'elle obéit, elle est fidèle, elle.
Elle est très bien tenue, elle est fidèle. Alors, il y a des républicains dans l'armée, mais ils ont été mis sur la touche. Les grandes villes ne bougeront pas. Notez que Paris se soulève. Mais Lyon et plus encore Marseille, qui sont des villes très turbulentes et qui ne sont pas du tout des villes bonapartistes, pas plus d'ailleurs que ne l'était Bordeaux ou que ne l'était Dijon, aucune des grandes villes ne se soulèvera parce que ces villes sont très bien tenues par l'armée. Et l'armée est dans les rues des villes le 2 décembre au matin, et donc ça n'incite pas à ceux qui auraient des velléités de se soulever pour défendre la République de le faire. C'est dans des petits bourgs où l'armée n'est pas présente, c'est dans les campagnes qu'on va se soulever pour la République en décembre 1851, et pas dans les métropoles et les villes de province. Je vous dis, il n'y a que Paris qui se soulève, c'est tout.
Il n'y a pas de garde nationale.
Il y a, si, il
Il
y
y
a
a
la
une
garde
garde
nationale,
nationale.
mais
Quelle est son attitude durant le coup d'État?
Alors, la garde nationale, c'est un petit peu particulier parce que la garde nationale, à l'époque, il y a des bataillons qui sont populaires, mais qui sont désarmés. Et donc, c'est principalement des bourgeois qui la composent, hein. Cette garde nationale sera d'ailleurs vidée de sa substance sous le Second Empire. Parce que, ne l'oublions jamais, c'est le basculement de la garde nationale en février 1848 qui provoque la chute du roi Louis-Philippe. Si la garde nationale lui était restée fidèle, il y a fort à douter qu'avec l'armée de son côté et la garde nationale, le régime de Juillet aurait été renversé. Et donc Louis-Napoléon Bonaparte a tiré cet enseignement de l'histoire, de vider de sa substance sans la supprimer formellement la garde nationale au lendemain de son coup d'État.
Mais comment s'est-il assuré l'armée?
Alors déjà, on a distribué de l'argent, hein, pas mal d'argent. L'argent a coulé à flot à la suite donc de la préparation du coup d'État, donc dans la nuit du 1er au 2 décembre. Ben, il y a aussi dans
Mais
l'armée
pardonnez-moi, Eric
un
Anceau, quand vous
devoir de
dites,
discipline. Donc, quand vous...
oui,
Pardon?
excusez-moi, je vous interromps, mais quand vous dites l'argent coule à flot. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chefs militaires ont été
Ben, oui, les
corrompus?
chefs militaires ont reçu de l'argent, les soldats ont reçu de l'argent, la solde a été payée à l'avance ou un petit peu augmentée pour s'assurer les fidélités. Mais de toute manière, je vous dirais, même sans ça, on l'a fait par sécurité, mais même sans ça, le soldat a un devoir de service et d'obéissance. Et quand vos chefs vous commandent d'obéir, eh bien, vous le faites. Les rébellions, quand même, dans l'armée française au XIXe siècle sont très limitées. Et encore une fois, le régime de ceux qu'on appelait les Pékins, c'est-à-dire les civils, les parlementaires qu'on appelait les bavards, étaient très peu appréciés dans l'armée. Il y a plusieurs signes d'ailleurs avant-coureurs. Le président de la République passe plusieurs revues militaires et on crie « Vive Napoléon, vive l'empereur !» Il y a dans une partie de l'armée une volonté de rétablissement de l'Empire. Donc, il est dans un, si vous voulez, dans, il bénéficie d'un contexte favorable, et tout particulièrement dans l'armée, pour réaliser son coup d'État du 2 décembre 1851. Ça non plus, il ne faut pas l'oublier.
Alors, Eric Anceau, dans votre nouvelle histoire de France, il y a aussi un intérêt, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, vous faites des focus, un éclairage particulier sur des personnes, sur des événements. Et il y a un éclairage à la fin du chapitre. Alors, je crois que c'est la fin, oui, c'est la fin du chapitre Deuxième République, mais qui nous amène donc au Deuxième Empire. C'est Victor Schœlcher. Et vous évoquez Victor Schœlcher, et on découvre que il s'est battu. Lui, sur les barricades, ou au moment du coup d'État.
Alors, Victor Schœlcher fait partie de ces républicains, effectivement, qui n'ont pas été incarcérés et qui, avec d'autres, alors il y a Quinet, il y a Victor Hugo et quelques autres, eh bien, ont prôné la résistance. Et parce qu'ils ont prôné la résistance, eh bien, ils ont risqué l'incarcération et ils seront exfiltrés. Ils n'étaient pas dans l'intérêt, si vous voulez, du président victorieux de créer des martyrs républicains. Et donc on le sait, Victor Hugo, par exemple, avec des complicités au sein de l'appareil d'État, a pu s'enfuir vers la Belgique d'abord, et puis après, comme on le sait, vers les îles anglo-normandes, Jersey et Guernesey, où il passera la totalité du Second Empire. Et Victor Schœlcher, de même, vivra ce Second Empire dans l'exil. Donc oui, ce sont des résistants républicains qui refuseront, lorsqu'en 1859, au moment de sa victoire dans la guerre d'Italie, une victoire d'ailleurs très très brillante, Napoléon III, donc Louis-Napoléon Bonaparte, un an après son coup d'État, je le dis pour vos auditeurs qui ne le sauraient pas, se fait proclamer Napoléon III, comme après le consulat, Napoléon Bonaparte s'était fait proclamer l'empereur Napoléon Ier. Et donc il remporte la guerre d'Italie en 1859, et le 15 août, qui est la fête de l'empereur, la fête nationale sous l'Empire, il défile avec son armée victorieuse dans Paris, et il proclame une amnistie de tous les condamnés politiques. Et donc théoriquement, un Schœlcher, un Victor Hugo, un Ledru-Rollin, un Edgar Quinet pourraient rentrer. Mais ils refuseront de bénéficier de cette amnistie. Tout le monde connaît la phrase célèbre de Victor Hugo: s'il n'en reste qu'un, sous-entendu dans l'exil, je serai celui-là. Et de fait, il ne rentrera à Paris, Victor Hugo, qu'au lendemain de la chute de l'empereur Napoléon III, le 4 septembre 1870.
Alors, Éric Anceau, je vous propose maintenant que nous abordons la suite, la vie politique de ce deuxième empire que vous partagez en quelque sorte en deux parties principales, d'une part l'empire autoritaire, puis l'empire libéral. Je vous propose, si vous voulez bien, d'évoquer la Constitution. Quelle Constitution bâtit Louis-Napoléon Bonaparte?
Alors merci Thierry, je me permets simplement un tout petit rectificatif.
Oui.
C'est canoniquement, effectivement, on oppose l'empire autoritaire, pour faire simple, les années 1850,
Oui.
à un empire qui se libéralise dans les années 1860. En fait, il y a trois moments, si vous voulez. Il y a, pour faire simple, hein, les deux extrêmes, un empire autoritaire, hein, on va l'évoquer avec vous, les années 1850. Ça, c'est indéniable. Tous les historiens, et moi le premier, le disent. Vous avez à l'extrême fin de la période, et j'ai publié deux gros volumes de 1700 pages pour l'évoquer, vous l'avez tout à l'heure cité,
Oui.
l'Empire libéral. Mais l'Empire libéral, c'est 1869-1870, avec Émile Ollivier que j'évoquais tout à l'heure. Et vous avez entre les deux, et c'est ça qui rend cette histoire très intéressante mais aussi compliquée, une phase de libéralisation avec des retours en arrière, parce que Napoléon III n'est pas convaincu que la libéralisation de son régime est une bonne chose. À certains moments donnés, conseiller, il avance, il fait un pas vers la libéralisation. À d'autres moments, il fait un pas en arrière. Et c'est toute la période des années 1860. Donc il y a trois phases, hein. Du coup d'État à 1860, de 1860 à 1869, et la phase ultime, qui est l'Empire libéral 1869-70. Alors, la constitution que vous évoquez, là, qui est la constitution de 1852, c'est la Constitution qui suit directement le coup d'État. Il a fallu que 3 semaines pour la rédiger. Louis-Napoléon Bonaparte veut une Constitution courte, car il estime que les meilleures Constitutions disent en peu de mots l'essentiel. Et après, on interprète divers éléments, mais vraiment, vraiment, on doit avoir un corpus important, mais court. Mais il ne se satisfait pas de voir que le travail prend du retard et il va s'enfermer pendant 48 heures avec Rouher et Trollon, qui sont deux juristes, surtout Trollon, et qui est un grand jurisconsulte, et il va lui-même rédiger la Constitution. Et pour faire simple, cette Constitution de 1852 et la Constitution du Consulat, c'est-à-dire la Constitution de son oncle, revisitée, mais tenez-vous bien, avec des pouvoirs encore plus importants que n'en avait Napoléon Bonaparte en 1799. Et en deux mots, je vous explique pourquoi. Pourquoi? D'abord parce que le terme de chef de l'État apparaît. On s'imagine que le terme de chef de l'État en France est de toute éternité. Eh bien non, il apparaît à ce moment-là. Et un chef de l'État, ça n'est pas rien. Chef d'État, qui, notez-le au passage, est doté de prérogatives héritées de la monarchie, comme le droit de grâce. Le droit de grâce présidentielle, de quand date-t-il? De la Constitution de 1852. Ça n'est pas rien. Pourquoi est-ce que Napoléon Bonaparte, en 1799, avait moins de prérogatives? Alors, il en aura beaucoup après avec la constitution de l'Empire en 1804, hein. Mais pourquoi en 1799 n'avait-il pas autant de prérogatives que son neveu ne s'en octroie en 1852? Parce qu'il était l'héritier de la Révolution. Et il ne pouvait pas tout se permettre avec les révolutionnaires qui, je le disais tout à l'heure, l'avaient porté au pouvoir. C'est un coup d'État, si vous voulez, où il n'a pas les mains aussi libres que Louis-Napoléon Bonaparte, qui est déjà président de la République quand il réalise son coup d'État, les a en 1852.
Mais cette première constitution est provisoire, puisque un an plus tard, c'est l'Empire.
Oui, mais la Constitution est retouchée en décembre 1852 quand on passe à l'Empire. Le 2 décembre 1852, le 4e 2 décembre de notre histoire, c'est vous dire si les Bonaparte aiment les 2 décembre. Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III, empereur des Français. Et on va modifier, mais vraiment à la marge, par un Senatus consulte, rédigé par le nouveau Sénat, la Constitution. Il y a 3-4 articles de la Constitution de 1852 qui sont retouchés, c'est tout. Hein, on change le terme de président de la République en empereur des Français. On octroie quelques prérogatives supplémentaires en matière commerciale. En matière de conclusion de traités de paix et de déclenchement de la guerre. Et puis, en termes de nomination de sénateurs, puisque désormais, comme il y a une famille impériale, ce qui n'était pas le cas, bien évidemment, pour le président de la République, hein, il nommait pas les membres de sa famille. Imaginez Emmanuel Macron qui nomme Brigitte sénatrice. Non, non, c'est pas possible. Mais l'empereur, oui, il y a de ça. Et donc, les membres de sa famille deviennent les hommes sénateurs de droit. Donc, vous en conviendrez avec moi, c'est des modifications marginales.
Oui.
Tout est déjà quasiment dans la Constitution du 14 janvier 1852, celle de la République post-coup d'État du 2 décembre 1851.
Qu'est-ce qui caractérise donc ce nouveau régime? Qu'est-ce qui caractérise cette constitution? Parce que c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre. Il y a quand même des élections, il y a le pouvoir du président, puis de celui qui sera empereur. Comment les pouvoirs sont-ils répartis?
Ben c'est très simple, il y a une très grande verticalité. Le détenteur du pouvoir exécutif, c'est le président de la République décennale, donc en 14 janvier 1852, puis l'empereur des Français, Napoléon III, à partir de décembre 1852. Il nomme qui il veut comme ministre. Ils n'ont pas besoin d'être représentatifs de la majorité parlementaire. Il les démet quand il veut. Il n'y a pas de premier ministre, donc c'est lui qui dirige le Conseil des ministres. C'est pas du tout comme la Constitution de la Ve République, avec un président de la République et un premier ministre qui se partagent l'exécutif. Exécutif à deux têtes, hein, même si il y a une forme de dévoiement ces dernières années. Donc là, si vous voulez, il y a une verticalité très forte. Les assemblées sont complètement divisées. Le pouvoir législatif est divisé entre trois assemblées. Sur ces trois assemblées, deux sont nommées, le Conseil d'État et le Sénat, par le chef de l'État.
Non,
Et la
intégralement
troisième
nommé. Ah
assemblée,
oui.
celle qui était au suffrage universel masculin rétabli, l'est en vertu de ce que l'on appelle la candidature officielle. En d'autres termes, le pouvoir désigne au peuple les bons candidats. Et au début du régime, ça n'est plus le cas ensuite, mais les mauvais candidats sont pourchassés, sont persécutés, ne peuvent pas mener une campagne comme ils l'entendent. Donc, dans ces conditions, vous en conviendrez, on peut qualifier le régime de régime autoritaire. Ajoutez-y le fait que la presse est complètement comprimée et que les préfets, ont des pouvoirs augmentés, dont certains d'entre eux sont discrétionnaires.
L'Assemblée, donc il y a une Assemblée nationale supposément
Corps
élue
législatif.
législative, pardon, oui, et supposément élue au suffrage universel, mais dans laquelle il y a un contrôle très fort des candidatures. C'est ce que vous expliquez.
Oui, et exactement. Et en
Et
aval, il n'y a pas de publicité des débats. Aujourd'hui, vous avez par exemple le mercredi après-midi des séances qui sont retransmises à la télévision. Vous avez l'intégralité des débats au journal officiel de la République française. À l'époque, c'est un résumé qui paraît au moniteur universel. Et qui fait le résumé? Le président du corps législatif, président du corps législatif qui est nommé par l'empereur. Et c'est son demi-frère, le comte puis duc de Morny, qui est président. Donc il y a un verrouillage complet des institutions.
Mais qui a l'initiative de la loi et qui décide de la loi?
Ah ben, l'initiative de la loi, c'est très simple. C'est le chef de l'État, en d'autres termes, le président de la République, puis l'empereur Napoléon III. Il est aidé pour mettre en forme ses idées par le Conseil d'État. Vous savez que dans les régimes impériaux, le Premier Empire et le Second Empire, eh bien, le Conseil d'État est l'enfant chéri du souverain. C'est l'expression qu'utilisait Napoléon Bonaparte pour son Conseil d'État. Il présidait lui-même les séances du Conseil d'État. Alors, son neveu ne va pas aussi loin. Il y a un vice-président du Conseil d'État. Le président théorique, c'est lui, mais il ne se rend pas au Conseil d'État. Il laisse faire, mais il contrôle tout, bien évidemment, avec ses fidèles.
L'Assemblée législative peut-elle voter des lois, prendre l'initiative de la loi en
Non.
voter? Non.
Non, non.
Donc
Alors elle
c'est
vote les lois, mais elle ne peut pas les amender au début du régime.
Donc elle vote les
Donc
lois
elle peut les
proposées par
voter.
le président, c'est ça, par son
Voilà.
ministère.
Il n'y a pas
Ouais.
de ce qu'on appelle des propositions de loi. Ça n'existe plus en 1852. Vous n'avez que des projets de loi qui émanent du président puis de l'empereur. Et la possibilité, mais les députés, c'est l'immense majorité, 95% des députés sont des candidats officiels, donc des membres du parti
Ouais.
bonapartiste. Donc il n'y a pas de risque. Mais quand bien même il y a un risque, ils ne peuvent pas amender le projet de loi, ils doivent le voter en totalité ou le rejeter en bloc. Ce qui fait qu'aucune loi n'est rejetée, parce que bien évidemment, le député, il pense à sa réélection, et il sait qu'à la prochaine élection, il ne retrouvera pas la candidature officielle, donc il ne sera pas de nouveau au corps législatif. Donc en fait, si vous voulez, les projets de loi sont tous votés à d'immenses majorités. C'est commode,
Oui,
ça va vite.
c'est très verrouillé. Oui. Et le rôle du Sénat a-t-il un rôle autre qu'honorifique?
Ah, alors ça c'est très intéressant. Oui, alors le Sénat, il n'a pas du tout qu'un rôle honorifique. Il est très très puissant, comme l'était le Sénat conservateur, c'est-à-dire le Sénat du Premier Empire, c'est son titre officiel. Le Sénat du Second Empire est doté de très grandes prérogatives. Je vais vous en donner trois, hein, pour que vous ayez une idée. La première, c'est que c'est lui qui s'occupe de l'Algérie et des colonies. En d'autres termes, tout ce qui relève des règlements, de la législation de l'Algérie et des colonies, c'est le Sénat qui s'en occupe. C'est quand même considérable. Le deuxième élément, c'est qu'il est le garant de la Constitution. Et là, c'est d'une modernité inouïe, le Second Empire. Imaginez que, avant le Conseil constitutionnel du général de Gaulle en 1958, il y a une forme déjà de Conseil constitutionnel, c'est le Sénat impérial du Second Empire. Il est garant de la Constitution. Il peut la modifier avec l'accord, bien évidemment, du souverain par des senatus consultes, terme hérité du consulat et de l'Empire, du Premier Empire, mais bien évidemment au-delà de l'Empire romain. Enfin, troisième élément, il reçoit, parce que le régime, on ne l'a pas encore dit, de Napoléon III est un régime de l'opinion publique, ce qui est d'une modernité inouïe. Napoléon III veut satisfaire dans une certaine mesure le peuple. Donc il est à son écoute. Et le Sénat reçoit les pétitions populaires pour les examiner. Tout Français peut pétitionner devant le Sénat.
Et il faut un nombre minimum?
Non, non,
Non.
non, non, non. Mais alors
Toute
simplement, bien
personne.
évidemment, plus vous recueillez de signatures dans votre pétition, plus
Oui.
elle a de chances d'être examinée d'abord,
Par. Oui.
reçue ensuite. Mais pour avoir examiné ces pétitions, et l'un de mes collègues qui s'appelle Francis Choisel, qui a entamé, voilà, 40 ans, une thèse de doctorat d'État sur le Sénat impérial, j'espère qu'elle verra un jour son aboutissement, eh bien, il a étudié les pétitions. Certaines pétitions, vous avez très peu de noms dessus. Et d'autres, vous en avez plusieurs dizaines de milliers. Donc, il y a un grand écart d'une pétition à l'autre.
Mais les sénateurs sont tous nommés par Napoléon III, hein, par l'empereur.
Alors, il y a deux types de sénateurs, un petit peu, si vous voulez, comme à la Chambre des Lords en Angleterre, aujourd'hui, mais déjà à l'époque, hein, vous avez ce qu'on appelle des sénateurs de droit, et puis vous avez les sénateurs nommés selon le bon plaisir du souverain. Alors, je vais vous donner deux exemples, hein. Les sénateurs de droit, c'est par exemple les maréchaux et les amiraux. Quand vous êtes maréchal ou amiral sous le Second Empire, de droit, vous siégez au Sénat. Deuxième exemple de sénateur de droit, les membres de la famille de l'empereur. Son oncle Jérôme, qui est le dernier des frères survivants de Napoléon. Son fils, le prince Napoléon Jérôme, bien connu de certains de vos auditeurs, surnommé Plomplom, sont sénateurs de droit. Et puis à côté de ça, vous avez ceux que qu'honore Napoléon III, par exemple. Il est content de certains de ses ministres, il va les nommer sénateurs. À la fin du Second Empire, il admire le grand savant Louis Pasteur, qui en plus est bonapartiste, il va nommer Louis Pasteur sénateur du Second Empire. Vous voyez, donc là, il a cette marge de manœuvre, exactement comme le souverain britannique, Margaret Thatcher, était entrée à la Chambre des Lords après avoir été fait lady par la reine d'Angleterre. Ce qui n'était pas obligé. Sans doute avait été apprécié de la souveraine Élisabeth II.
Cette constitution est confirmée par référendum et
À
validée
cette
en quelque sorte.
constitution, oui. Alors, oui, alors le référendum, alors j'ai marqué un temps d'hésitation parce qu'à l'époque, on appelle ça un plébiscite
Oui.
et pas un référendum parce que,
Pardonnez-moi.
si vous voulez, le référendum, c'est le terme qu'on utilise dans la République romaine et qu'on va
Oui.
reprendre sous la Ve République et qu'on utilise à cette époque-là dans un certain nombre d'autres pays. On pense à la Suisse, On pense aux États-Unis d'Amérique. En France, on utilise plutôt le terme romain, lui aussi, de plébiscite, mais hérité là encore du Premier Empire. Alors, les plébiscites de la Deuxième République et du Second Empire, vous en avez quatre. Les trois premiers sont très encadrés, hein, et pour tout dire, en partie falsifiés, c'est-à-dire qu'on grossit les chiffres des votants pour faire ressortir, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui un plébiscite, c'est-à-dire que le oui est massif. Le dernier que j'ai étudié dans l'Empire libéral, lorsque la Constitution va être modifiée en avril-mai 1870, est un plébiscite totalement libre. Et avec les constitutionnalistes, les grands publicistes français, nous sommes d'accord, nous historiens du politique, pour dire que c'est un référendum sans le nom qui annonce déjà ceux du général de Gaulle à partir de 1958, le plébiscite de 1870. Donc vous voyez, il y a un hiatus qui s'opère entre le plébiscite de l'Empire libéral 1870 et les trois de l'Empire autoritaire qui, pour le coup, alors là, sont plus tournés vers le Consulat et le Premier Empire, le
Donc,
passé.
oui, leurs résultats sont donc très discutables, sauf le quatrième, le
Oui, alors
plébiscite,
le nom.
sur le référendum, véritable référendum,
Exactement.
sur la nouvelle constitution dont vous allez en effet nous parler. Qu'est-ce qui permet d'affirmer cela? Ce sont il y a des documents particuliers qui
Ah ben
montrent.
oui. Alors, je n'ai pas étudié, il l'avait été en détail, je renvoie aux travaux de Frédéric Blüsch ou de Gisela Gewitz qui ont étudié les plébiscites, celui qui suit le coup d'État du 2 décembre 1851, parce que Louis-Napoléon Bonaparte s'est tourné vers les Français pour qu'ils lui donnent en quelque sorte quitus de l'acte qu'il avait commis. Et il dira d'ailleurs, je suis légitime, je suis sorti de la légalité, mais avec l'accord du peuple, je suis donc légitime. Alors, je mets un petit bémol quand même. Bien évidemment, il avait le soutien massif d'une grande partie de la population. N'oublions pas quand même qu'une cinquantaine de départements français sont en état de siège et que les opposants républicains sont pourchassés quand ce plébiscite du 2 décembre, du 20 décembre 1851 est organisé. On est 3 semaines après le coup d'État. Et puis vous en avez un autre de plébiscite qui intervient en fait en novembre 1852 pour le passage à
À
l'Empire.
l'Empire.
Et là encore, régime autoritaire, contrôle strict. Celui 1870, là par contre, je peux l'affirmer, je l'ai étudié de très près, j'ai passé 1 an et demi de ma vie à étudier ce plébiscite, j'ai regardé tous les documents possibles et inimaginables dans les archives départementales, j'ai fait tous les dépôts d'archives départementales pour l'étudier, tous les procès-verbaux, la presse, etc. Il y a une campagne libre qui est menée. Alors, le seul petit bémol que je dirais, c'est qu'il y a un complot contre la vie de l'empereur qui est découvert quelques jours avant le plébiscite. Et on ne sait pas si cet attentat contre la vie de l'empereur est un vrai attentat ou ce ne sont pas les autorités qui l'ont créé de manière, si vous voulez, à cristalliser, à créer une peur dans l'opinion, de manière à ce qu'on vote massivement bonapartiste. C'est le seul bémol. Par contre, la campagne est totalement libre, les opposants peuvent faire des meetings. Imaginez que dans cette campagne, je l'ai raconté dans un récent colloque dont les actes vont paraître sur les meetings électoraux, il y a une modernité inouïe. Vous avez des meetings devant 10 000 personnes et les opposants ont la possibilité d'organiser ce type de meeting pour prêcher le non. Et malgré cela, eh bien, c'est le oui qui va l'emporter très, très, très massivement, dans la proportion de 19 votes pour et un vote contre
Ah oui,
le
c'est un
plébiscite.
résultat très impressionnant. À partir du moment où il y a une véritable liberté
Oui.
de choix, et tout ça va disparaître en quelques mois avec la déclaration de guerre à la Prusse. Éric Anceau, je vous propose que nous fassions une petite pause. Il y a un message de la radio à écouter, et puis une pause musicale qui est votre choix. Alors que vous allez certainement nous commenter, que vous m'avez fait découvrir en tout cas, c'est Partons pour la Syrie. C'est l'hymne officieux du Second Empire, et qui a été composé par la mère Hortense. C'est ça, de Napoléon III. C'est incroyable. Était-ce d'ailleurs vraiment. Enfin, si, c'est sa mère, Hortense, bien entendu. C'est son père
Ah ben,
sur lequel il y a quelques questions,
oui.
naturellement.
Il y a un petit doute sur son
Oui.
père, même si, bon, les historiens, il y a même des tests génétiques ont été faits, tendraient à accréditer la thèse que Louis Bonaparte, le roi de Hollande, est bien le père de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, en dépit des rumeurs que faisait courir l'opposition à l'époque. Hortense, c'est bien évidemment sa mère, là, il n'y a aucun doute
Oui,
possible.
ça c'est sûr.
Et Hortense était très douée, vous savez, c'est une tête
Oui.
politique. Hein. Dans un autre temps, elle aurait peut-être été chef d'État ou ministre, et ça n'était pas possible pour les femmes. Donc elle a reporté toute son affection sur son fils. Il y avait un lien fusionnel avec ce fils cadet, qui était Louis-Napoléon Bonaparte, qu'elle a élevé dans le mythe de l'empereur Napoléon, en lui disant un jour, tu succéderas à ton oncle. Et elle était compositrice. Hein. Alors, c'est pas elle qui a fait les paroles, hein, c'est Laborde qui a fait les paroles. Le Bois du Noy, ça raconte l'histoire des croisades, d'où partant pour la Syrie. Hein, ça relate un épisode des croisades, mais indirectement, vous le savez sans doute, au moment de l'expédition d'Égypte, lui-même, Napoléon Bonaparte s'est mis en route pour la Syrie, donc il y a une récurrence, hein, et c'est elle, Hortense, qui a composé la mélodie. C'est un immense succès, il faut le savoir, dans le premier 19e siècle, et bien évidemment, quand Louis-Napoléon Bonaparte devient Napoléon III, on joue toujours dans les manifestations officielles, partant pour la Syrie, ça lui rappelle sa mère. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'hymne officieux de la France. Notez que la Marseillaise est interdite à l'époque.
Eric, je vous propose donc que nous écoutons cette pause musicale après le message de la radio. Surtout, vous restez bien en ligne parce que vous avez encore beaucoup de choses passionnantes à nous raconter. Peut-être quelques mesures principales de la première partie de l'Empire. Vous avez cette partie, vous l'avez intitulée, pardon, dans le chapitre Césarisme démocratique et grandes initiatives économiques, notamment sur la politique étrangère. Vous écrivez que Napoléon III replace la France au premier rang de la scène internationale. Nous avons le message d'une auditrice qui nous dit, mais pourquoi l'expédition au Mexique? Vous avez dit, au cours de notre discussion, vous avez qualifié de brillante, hein, la campagne d'Italie contre les Autrichiens. Peut-être aussi nous dire un mot, hein, sur la Crimée, la guerre de Crimée. On a toujours dans tous ces cas, Mexique, Italie, Crimée, on a un peu de mal à comprendre les intérêts de la France, ce qui a amené Napoléon III à s'engager. Puis évoquer, alors c'est court, en 30 minutes bien sûr, hein, la libéralisation du régime, et à différencier effectivement de ce que vous avez appelé l'essai d'un empire libéral avec le ministre Olivier. Voilà le programme, si vous l'acceptez,
Ah,
après
mais
la
avec un
pause.
grand plaisir, mais ouais, ça va être
Ça va être
pour
court, hein?
danser hein, dans le temps qui nous
Ça
reste.
va être court. On va essayer, Eric Anceau.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Éric Anceau à l'occasion de la publication de cette somme « Nouvelle histoire de France » qu'il dirige aux éditions Passé Composé. Il en a écrit un certain nombre de chapitres. La Deuxième République, pour laquelle nous avions eu le plaisir de le recevoir. Et maintenant, nous évoquons ce chapitre consacré à l'Empire et son évolution. Nous commençons, Éric Anceau l'a expliqué, en nous indiquant les raisons qui amènent Louis-Napoléon Bonaparte à faire ce coup d'État, la proclamation de l'Empire, la Constitution, en même temps qui est une Constitution qui n'est pas démocratique, qui nous a expliqué effectivement les grandes lignes. Tout le pouvoir est vraiment contrôlé par l'empereur et par les ministres qu'il désigne, qu'il nomme. Et puis, il y aura une évolution libérale à partir de 1859-1860 pour aboutir à un empire libéral, à une constitution qui, elle, est réellement libérale, qui va être plébiscitée par un référendum. Là, on peut utiliser le terme de référendum puisque ce vote n'est pas manipulé le 8 mai 1870, quelques mois seulement avant la guerre et la défaite de Sedan qui précipitera donc la chute de l'Empire. Éric Anceau, je vous propose peut-être, si vous en êtes d'accord, d'évoquer la politique étrangère, les faits principaux de cette politique étrangère de l'Empire, parce que vous écrivez que Napoléon III replace la France au premier plan de la scène internationale, et ça nous ramène à la question donc, de notre auditrice hein, sur les raisons de l'expédition au Mexique, mais je voulais vous parler aussi, vous interroger sur les raisons de la guerre d'Italie, cette brillante guerre d'Italie. Je ne savais pas que c'était une brillante guerre d'Italie, vous allez nous expliquer pourquoi. Et puis la guerre du Crimée, et puis après, effectivement, la fin de notre conversation, elle a consacré à l'évolution libérale de l'Empire et à cet essai d'un Empire libéral. Si ça vous convient.
Oui, alors, si vous voulez, pour synthétiser les choses, oui. La politique étrangère, je réfléchissais à la manière dont j'allais très simplement répondre à votre question, qui est très vaste en quelques mots.
Oui.
La meilleure manière de synthétiser la politique étrangère de Napoléon III, c'est d'utiliser trois formules. D'abord, une formule qui est très gaullienne, mais qui est aussi très bonapartiste, très napoléonienne et très... Napoléon III, la grandeur de la France, rétablir la grandeur de la France. Il faut savoir que depuis 1815 et le congrès de Vienne, qui marque la fin des guerres napoléoniennes et la chute finale de l'Empire, la France s'est devenue une puissance de seconde zone. Et c'est véritablement avec le Second Empire qu'elle revient, provisoirement, mais au premier plan, et elle est la grande puissance internationale avec la Grande-Bretagne. Donc, grandeur de la France, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et ça, Louis-Napoléon Bonaparte, on ne me reprochera pas, vous le voyez, de l'encenser, j'ai pu être très critique avec lui dans la première partie de notre émission, a quand même, pour beaucoup de points, un côté visionnaire. Dès sa jeunesse, comme Tocqueville au même moment, il écrit la chose suivante. Il y aura bientôt deux grandes puissances sur Terre, les États-Unis d'Amérique et l'Empire russe. Nous devons, nous, Européens, nous organiser, nous sommes entre les deux, nous risquons d'être écrasés par le marteau et l'enclume, pour exister. Et la France a un rôle moteur à jouer. Alors, certains de vos auditeurs se disent, mais il a fabule, il réécrit l'histoire. Pas du tout. J'ai apporté, je la remonte, dans ma biographie de Napoléon III, les preuves de ce que j'avance. Il l'écrit dans les années 1830. Imaginez la modernité et le côté visionnaire de cet homme. Et puis le troisième élément
Pardonnez-moi,
peut-être.
Éric Rousseau, je vous interromps. C'est une question aussi très candide et naïve. Alors, il voit très loin quand il parle de la puissance future russe et puis américaine, mais il passe à côté de la menace prussienne, qui est,
Oui,
elle,
non,
beaucoup plus
la
proche.
Russie est quand même une très très grande puissance à l'époque. C'est
Oui.
elle qui a joué le premier rôle dans la chute quand même avec l'Angleterre de Napoléon. Hein. La campagne de Russie de 1812, c'est
Oui.
le début de la fin. Hein. Quant aux États-Unis d'Amérique, il a pu observer, et c'est à la suite de ses observations sur place, c'est quand même l'un des seuls futurs chefs d'État de toute l'histoire du 19e siècle, à avoir, par la contrainte, puisqu'il était exilé suite à son premier coup d'État, pu observer le fonctionnement des États-Unis d'Amérique, comme Tocqueville, avec son ami Gustave de Beaumont, s'était rendu aux États-Unis. Et il voyait le potentiel de cette démocratie et de cette puissance économique qui était en train de naître. Et il a bien vu les choses. Alors, je reprends.
Pardonnez-moi, mais
Troisième point, le troisième.
oui,
Oui, pardon?
ma question était aussi sur la Prusse. C'est-à-dire qu'il voit la Russie, il voit les États-Unis, mais les États-Unis, c'est comme dans très longtemps, mais on pourrait rétorquer qu'il n'a pas vu la Prusse.
Alors, il n'a pas vu la Prusse, bien évidemment, mais là, ça va nous entraîner très loin, on ne va pas tenir le temps. Le cas
Oui.
prussien, si vous voulez, est un cas très, très particulier parce que il ne voulait pas de l'unification allemande. Bismarck, bien évidemment, ne la voulait pas non plus, mais après, il va la vouloir. Donc, si j'entre dans le détail de la
D'accord.
pensée de
Bon,
Bismarck par
ça
rapport à la
fera.
pensée de Napoléon III, ça va nous entraîner très
On
loin.
fera ça à
Mais
une
ça
autre
m'amène au
émission.
troisième point. Ça m'amène au troisième point. En revanche, ce que pensent Louis-Napoléon Bonaparte et Napoléon III, c'est que l'avenir est aux nations. Ça me permet de faire de la pub à mon histoire de la nation française dans la collection que je dirige. Et donc, les nationalités qui n'ont pas encore d'État doivent en avoir un. Et donc, il va aider le Piémont de Cavour et de Victor Emmanuel dans la guerre d'Italie contre l'Autriche à faire l'unification. Simplement, l'Allemagne est un beaucoup plus gros morceau et il ne voulait pas d'une unification complète de l'Allemagne. Il voulait d'une Allemagne en plusieurs tronçons. Et Bismarck, bien évidemment, là, complètement, on est bien d'accord, roulé dans la farine, mais si vous voulez, on ne peut pas reprocher non plus à Louis-Napoléon Bonaparte et Napoléon III tout et son contraire. Le troisième principe, donc je reprends ce que je disais, dans lequel il a une forme de côté visionnaire, c'est de dire que le 19e siècle est celui des États-nations et qu'on doit aider à accompagner le mouvement pour éviter de n'être débordé par ce mouvement et que ne surgissent, alors je mets plein de guillemets au terme parce qu'il est anachronique à l'époque, que ne surgissent les nationalismes. Donc voilà un petit peu l'idée de Napoléon III. La guerre d'Italie, c'est ça, et j'utilisais le terme de brillant parce que,
Brillante, oui, pourquoi
oui, tout
brillante?
à fait, ben, vous avez quand même. Deux victoires qui sont commémorées à Paris par deux boulevards bien connus de vos auditeurs. La bataille de Magenta du 4 juin 1859 et la bataille de Solferino du 24 juin 1859, qui sont très brillantes, qui auraient pu être suivies d'autres victoires si Napoléon III n'avait pas pris peur. Pourquoi a-t-il pris peur? Parce qu'il y a une solidarité germanique en faveur de l'Autriche, et avec une forme de roublardise des Prussiens, c'est-à-dire que les Prussiens ont massé 100 000 hommes sur le Rhin. N'oubliez pas qu'à l'époque, en vertu du congrès de Vienne, les Prussiens contrôlent la Rhénanie. Et là, Napoléon III s'est dit, je ne peux pas poursuivre la guerre d'Italie, parce que sinon je vais devoir mener une guerre sur deux fronts, contre les Autrichiens en Italie et contre les Prussiens en France. Et donc, il a demandé à l'empereur d'Autriche, alors il était gagnant sur le terrain, il entre quand même dans Milan, il fait la conquête de Milan avec le roi Victor Emmanuel. C'est une cérémonie inouïe. Vous n'imaginez pas la popularité de Napoléon III en Italie en 1859. C'est phénoménal. Mais il va devoir arrêter la guerre prématurément. C'est l'armistice de Villafranca. suivi du traité de Zurich, parce qu'il y a la menace d'une invasion de la France par la Prusse. Un petit mot sur les deux autres guerres, puisque vous m'avez entré
Mexique et
sur
Crimée.
Le terrain. La guerre de Crimée, c'est antérieure, 1854-1856. C'est une grande victoire française. Alors, on a en tête, bien évidemment, le pont de l'Alma, la victoire de l'Alma. On a bien évidemment en tête la victoire de Malakoff. On a même une commune dans la banlieue de Paris qui s'appelle Malakoff pour commémorer cette victoire. Hein. Et on a bien évidemment la prise de Sébastopol, Malakoff étant la tour qui surplombait le port de guerre russe de Sébastopol en Crimée. Alors là, les causes sont différentes. C'est l'impérialisme russe. Il y a une récurrence formidable avec notre actualité, hein, qui s'en prend en fait à ses voisins. Alors, à l'époque, ils ont la Crimée, donc ils vont pas s'en prendre aux Ukrainiens, ils s'en prennent aux Turcs. Et la communauté internationale, bah, comme aujourd'hui à l'égard des Russes, s'émeut. Et Napoléon III et l'Angleterre entrent en guerre contre la Russie. Une guerre qui est victorieuse. En plus, il s'agit, ça a parlé à vos auditeurs, de protéger les lieux saints dont les Russes orthodoxes voulaient prendre le contrôle au détriment des catholiques qui étaient protégés par la France et par l'empereur Napoléon III. Donc là, je renvoie aux actes du colloque qu'on a publié récemment sur la guerre de Crimée. Et puis, on avait publié antérieurement un colloque sur la guerre du Mexique. Je vous dis un mot de la guerre du Mexique. Alors là, les origines sont encore différentes. C'est ce que Rouher, principal ministre de Napoléon III, avait appelé la grande pensée du règne, car il s'agissait, cette expédition du Mexique est un échec, bien évidemment, mais on a travesti complètement les causes fondamentales de cette expédition en disant c'est une affaire de gros sous, on doit satisfaire des créanciers français et suisses qui n'arrivent pas à se faire rembourser des sommes qu'ils ont prêtées par le gouvernement mexicain, donc on va les se payer sur place. Bien évidemment, c'est l'une des causes. Mais la cause principale pour laquelle Napoléon III déclenche l'expédition du Mexique, c'est pour créer un grand empire catholique et latin, client de la France, aux marges de la République anglo-saxonne et protestante des États-Unis d'Amérique. Et la boucle est bouclée, ça nous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, Napoléon III, le visionnaire, même si tout ce qu'il a vu ne s'est pas réalisé et tous ses projets n'ont pas abouti, a créé un empire mexicain qui fonctionne, comme le disait le général de Gaulle, la main dans la main avec la France, pour contrebalancer la République des États-Unis, anglo-saxonne, protestante et mercantile. Quelle vision!
Mais les Mexicains n'en voulaient pas.
Ben, pas tous les Mexicains. Les Mexicains catholiques en voulaient. N'oubliez pas que ce qui va aussi faire échouer l'expédition du Mexique, c'est que, libérés de leur civil war, la guerre de sécession, les Américains vont envoyer beaucoup de matériel et des soldats brillants. C'est décrit dans des westerns très, très célèbres, hein, bien évidemment, Veracruz, etc., etc., que vos auditeurs connaissent, pour aider les Mexicains hostiles à Napoléon III à renverser l'empereur Maximilien qu'il avait placé sur le trône du Mexique. Donc les États-Unis d'Amérique, et après c'est l'impérialisme américain pour le coup, hein, parce que c'est leur zone de domination, le continent américain, pas touche, hein. Les Européens ne pourront plus faire grand-chose.
Alors, Eric Urson, il ne reste que 13 minutes à peu près à passer en votre compagnie pour évoquer deux étapes importantes donc dans l'évolution de l'Empire de Napoléon III, tel que vous le faites dans ce chapitre de la nouvelle histoire de France que vous publiez et dirigez aux éditions Passé et Composé. C'est à la fois la libéralisation progressive qui va se produire à peu près à la fin des années 50, qu'est-ce qui la provoque et comment elle se concrétise, et puis en effet 1869-1870, quelques mois avant la défaite contre la Prusse, elle laissait ce que vous qualifiez, hein, c'est ainsi, ce sont vos termes, l'essai d'un empire libéral. Ce qui vous fait écrire d'ailleurs que le Second Empire débute comme une démocratie illibérale et s'achève de façon radicalement différente par l'empire libéral.
Oui, alors les causes peut-être de cette libéralisation de l'Empire, dont l'acte fondateur est le décret du 24 novembre 1860, qui, pour faire simple, augmente considérablement les prérogatives du corps législatif. Voilà un élément à retenir. Le fait également qu'il y aura désormais des ministres qui viendront expliquer la politique. Alors, quand on dit ça, on est dans un autre monde, bien sûr. Des ministres qui viendront expliquer la politique du gouvernement devant les députés. Imaginez qu'entre 1852 et 1860, ce n'était pas le cas. Donc, c'est encore, vous en conviendrez, une libéralisation légère, mais qui progressivement, par des mesures prises en 1863, en 1867, en 1868, puis en 1869, nous amène à ce fameux empire libéral. Alors, les causes maintenant. Très simplement, là encore, pour vos auditeurs, je dirais qu'il y a trois faisceaux de causes. Vous savez qu'en histoire, la causalité unique n'existe pas. Et en général, les grandes décisions s'expliquent par un ensemble de causes. Il y a trois causes qui vont amener Napoléon III à libéraliser son empire en 1860. Alors, la première cause, ça a été montré, j'ai participé, je ne suis pas le seul, à le montrer en renversant un petit peu les perspectives, c'est l'Angleterre, figurez-vous. Alors, pourquoi l'Angleterre? Ben, tout simplement parce qu'en 1860, Napoléon III sent que l'Angleterre commence à devenir très très critique à l'égard de sa politique étrangère qui commence à prendre du volume. La guerre d'Italie, par exemple, hein, au lendemain de la guerre d'Italie, la France a annexé la Savoie, par exemple. Hein. Ça ne plaît pas du tout aux Anglais, parce que les Anglais sont des protecteurs de la Suisse, de la Confédération helvétique. Et pour bien se faire voir des Anglais, on va décider d'adopter un régime plus parlementaire comme le régime anglais. Et puis on va décider également de faire passer un traité libéralisant les échanges avec l'Angleterre. Ça, c'est d'une modernité inouïe dans un 19e siècle qui est très protectionniste. Le traité du 24 janvier 1860. Imaginez qu'à l'époque, vous aviez des droits de douane extrêmement élevés, qui pouvait parfois sur certains produits s'élever à 90%, voire des prohibitions 100%, et peine de mort pour qui contrevenait à ces prohibitions. Donc, vous voyez un petit peu le régime. Eh bien, Napoléon III va initier un mouvement vers. Ah, c'est pas du libre-échange, hein, attention. Hein, parfois, je lis traité de libre-échange. Pas du tout. Simplement, c'est le pas vers ce qu'on connaîtra au XXe et au XXIe siècle. Peut-être pour le meilleur et pour le pire. Là, je ne prends pas de jugement. Mais toujours est-il qu'il y a un rapprochement avec l'Angleterre. Premier élément, donc on libéralise comme le font les Anglais. Deuxième élément, le fait d'avoir libéralisé. Je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de patrons et il y a beaucoup de catholiques dans le corps législatif. Alors, les patrons, ils sont très mécontents de perdre la protection. Et les catholiques, ils sont très mécontents parce que figurez-vous que la guerre d'Italie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé un royaume de Piémont très puissant, qui va devenir très bientôt le royaume d'Italie, au détriment de la papauté. On n'en a pas encore parlé. À l'époque, le pape possède des États dans la péninsule italienne qui couvrent le tiers de la péninsule et qui progressivement sont attaqués par les patriotes et les révolutionnaires italiens. Donc il y a dans la majorité de Napoléon III des sources d'opposition. Et en quelque sorte, pour désamorcer ces critiques, alors vous pourriez avoir un coup de vis. Ben non, Napoléon III, il fait rien comme personne. Il va donner des gages, il va libéraliser pour que les patrons puissent le contrôler davantage et que les catholiques soient contents. Et puis enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, il y a une troisième cause. Depuis 1856, Napoléon III a un héritier, le prince impérial, et il est de plus en plus malade, Napoléon III.
Oui,
Il
vous
va
parlez d'un
falloir à terme
vieillissement
lui
prématuré.
céder.
Oui,
Pardon?
vous parlez d'un vieillissement
Il
prématuré.
est prématurément vieilli par tout un tas de maux
Oui.
qui le rongent, les rhumatismes, ses excès sexuels, et puis bien évidemment la maladie de la pierre. Hein, il a un caillou qui grossit dans sa vessie et qu'on n'a pas diagnostiqué, qu'on diagnostiqua très tard et qui le handicape beaucoup. Et donc il envisage de céder à sa majorité, comment dirais-je, le pouvoir à son fils, le prince impérial. Et pour le faire dans de bonnes conditions, les gens de la génération du prince impérial, hein, il a 4 ans en 1860, il en aura 14 en 1870, n'ont pas connu la situation d'anarchie de la Deuxième République. Et donc, ils ne comprendraient pas, si vous voulez, un régime autoritaire qui perdure. Donc la libéralisation, c'est aussi, les jeunes, vous le savez, on dit souvent, hein, sont plus à gauche, plus ouverts, plus tournés vers les libertés que nous-mêmes, qui ouais, sommes plus intéressés par l'ordre, notre sécurité, etc. Et donc la libéralisation, c'est aussi permettre à son fils d'arriver avec une jeune génération au pouvoir et plus de liberté. Donc ces trois éléments expliquent la libéralisation des années 1860.
Mais cette libéralisation concerne-t-elle aussi les élections? Est-ce que les élections, l'Assemblée, sont-elles toujours aussi contrôlées? Les candidats sont-ils toujours autant surveillés?
Alors oui, jusqu'aux élections comprises de 1863, les troisièmes élections législatives du régime, le système n'est pas modifié, celui de la candidature officielle. Mais malgré ce système, on voit des opposants qui parviennent à se faire élire en plus grand nombre. Adolphe Thiers, par exemple, grand opposant orléaniste, est élu en 1863. Il apporte une voix puissante d'opposition. Berryer, la grande figure, le grand avocat de la cause légitimiste, la branche aînée des Bourbons, est élu. Et les Républicains ont également fait leur entrée au corps législatif. Donc vous avez des voix d'opposition qui se font entendre. Et il se trouve qu'en 1869, le système de la candidature officielle prend l'eau de toutes parts, va finir par être plus ou moins abandonné avant de l'être officiellement au moment de l'Empire libéral. On abandonne la candidature officielle, les élections deviennent complètement libres.
Alors, Éric Ursault, il nous reste 5 minutes à passer en votre compagnie pour évoquer justement cet essai d'un empire libéral, ce qui le caractérise. Il y a une question d'auditeur néanmoins, juste avant d'aborder le sujet. Qui a financé les guerres de Napoléon, nous demande cet auditeur.
Ah, très
Napoléon
bonne
III.
question. Parce que là aussi, c'est pour le meilleur et pour le pire d'une modernité inouïe. Je m'explique. Les dirigeants du 19e siècle étaient extrêmement vertueux. Ils considéraient que le budget devait être en équilibre. Et donc, il y a quelque chose qui, dans leur esprit, était complètement prohibé, si vous voulez, c'était l'emprunt. Et Napoléon III, figurez-vous, à la fois pour, on n'en a pas parlé, mais le sujet est intéressant. Et là, je renvoie vers le
Napoléon III et
collectif que j'ai publié,
l'économie.
Napoléon III et l'économie,
Quelle
pour
maison
financer les
d'édition?
grands travaux économiques d'infrastructure et les travaux du baron Haussmann, recours à l'emprunt massivement, mais pour financer les guerres. Vous avez eu deux très grands emprunts qui ont été lancés, par exemple, pour la guerre de Crimée. Ce sont les deux premiers grands emprunts de guerre à cette échelle-là de toute l'histoire de France. Donc on recourt à l'emprunt. Voilà. Ce n'est pas forcément une bonne chose, hein.
Je vous propose, dans les 4 minutes qui nous restent, d'évoquer effectivement cet empire libéral, ce qui le caractérise, mais là nous avons aussi un message d'auditeur. L'Angleterre mit-elle des entraves directes ou en sous-main aux colonisations françaises durant le Second Empire, malgré de bonnes relations de façade? On pourrait penser à l'Algérie par exemple.
Alors, non, pas vraiment, pas sous le Second Empire, je dirais, c'est davantage avant. Les relations sont très tendues sous le règne de Louis-Philippe à propos de Tahiti. Hein, c'est la fameuse affaire Pritchard qui a lieu dans les années 1840. Et puis bien, ça tout le monde le sait, sous la Troisième République, symbolisée par Fashoda, bien évidemment. Sous le Second Empire, il y a une forme d'entente cordiale avec l'Angleterre sur beaucoup de points. Sauf encore une fois quand la France va s'affirmer sur la scène européenne. Alors là, ça va poser souci. Mais dans le domaine colonial, il n'y a pas véritablement de difficulté. Je dirais même ça va plus loin. Quand les Anglais, vous savez, il y a la grande révolte des Indes, qu'on appelle la révolte des Cipayes en 1859, ont besoin d'envoyer 100 000 hommes en Inde, eh bien, Napoléon III ouvre les eaux territoriales françaises pour que la Royal Navy, la flotte britannique, puisse se rendre en Inde. Donc, vous voyez, c'est plutôt une forme d'entente cordiale.
Éric Anceau, il nous reste malheureusement 3 minutes, 3 toutes petites minutes pour évoquer l'empire libéral, ce qui le caractérise. C'est court, mais je suis sûr que vous arriverez à nous le
Oui,
présenter
alors, pour
en ce
faire
temps-là.
simple, hein, c'est un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel qui ressemble énormément à la Ve République. Là, il faut que je fasse un livre avant de mourir où je comparerais
Vous
Napoléon
en ferez
III
d'autres.
et De Gaulle. Oui, mais celui-là en particulier.
Oui.
Pour montrer les similitudes et dans la correspondance du général de Gaulle, vous savez que ses opposants à Mitterrand, le coup d'État permanent, Jacques Duclos, secrétaire général du Parti communiste, Napoléon III et de Gaulle, comparer Napoléon III et de Gaulle, c'est fascinant. 1958, on a l'impression que c'est une ressucée de 1870. Avec deux détails près cependant, bien évidemment, De Gaulle n'avait pas mis en place un régime héréditaire, ce qui était le cas de Napoléon III, même si Napoléon III avait dit, si moi ou mon fils nous perdons un plébiscite, nous partirons. Bon, un peu comme le général De Gaulle en 1969. Vous voyez que c'est quand même absolument incroyable, hein, ce retour de l'histoire. Et le deuxième élément, figurez-vous, c'est le contrôle de constitutionnalité. On va boucler la boucle. Tout à l'heure, je vous parlais du Sénat impérial qui contrôlait la constitutionnalité. Figurez-vous que dans la Constitution de 1870, il n'y a plus de contrôle de constitutionnalité. Donc là, on est très éloigné de la Constitution de 1958 avec le Conseil constitutionnel, que certains voudraient supprimer aujourd'hui. D'accord ? Vous ne l'avez plus en 70, alors que vous l'aviez en 52 avec le Sénat. Fascinant.
Et puis le fait aussi que vous l'écrivez dans ce chapitre consacré au Deuxième Empire, Éric Anceau, de la nouvelle histoire de France que vous publiez aux éditions Passé Composé, il y a le fait aussi que le ministre principal, Olivier, est issu de la majorité de l'Assemblée législative. Ça, c'est une révolution, peut-on dire.
Ah ben, tout à fait. Oui. Au journal officiel de l'Empire français, fin décembre 1869, il est indiqué, Napoléon III indique, j'ai fait appel à un gouvernement représentatif de la majorité et Olivier viendra prononcer un discours de politique générale comme un Premier ministre aujourd'hui.
Eh bien, Éric Anceau, merci beaucoup d'être venu nous parler de l'Empire, du Deuxième Empire, de ses étapes principales, telles que vous l'avez fait ce soir en direct. J'espère que nous aurons le plaisir aussi de vous accueillir bientôt à l'occasion de vos nouvelles publications. À très bientôt, Éric Anceau. Un très grand merci à vous. Merci à Stéphane, à la technique qui a permis cette émission. Merci à Laurent au standard. Et merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Très bon dimanche soir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises, dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 6 septembre 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.